Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, un romancier culte. Aujourd'hui, Alain Mabankou est là pour nous parler de son nouveau roman. Visite de bibliothèque, évidemment, celle de Stomy Bugsy aujourd'hui, plein de surprises. Et à la fin de l'émission, Le Grand Mezzé, avec de quoi lire pour tout le monde, jeunesse, bande dessinée, roman. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. On se souvient de Mémoire de Porc-Épic, bien sûr, ou Black Bazar et d'autres, prix Renaudot en 2006. Il revient avec Le Commerce des Allongés. L'élégant Alain Mabankou est avec nous. Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Je dis élégant parce que vous n'avez pas que du style dans le langage.
Oui.
Vous avez du style tout court. Et là, vous portez des lunettes magnifiques comme toujours, une casquette tartan, un pull bleu ciel.
On ne dira pas le nom.
Ça, ou... Bah, on peut dire,
c'est Lacoste,
mais c'est pas des crocodiles, c'est des grands Lacoste marqués comme ça en blanc sur un tout bleu
qu'on
n'a jamais vu.
C'est la signature originale de Monsieur Lacoste.
D'accord, mais c'est quoi c'est important pour vous, le style?
Je pense que le style, c'est l'homme. C'est pas parce qu'on est dans une situation désespérée qu'il faut aussi désespérer le corps. Le corps est un instrument d'expression. De la même manière que la voix pour vous à la radio est essentielle, dès que vous venez quelque part, on doit d'abord voir qui vous êtes par l'apparence. Et après, maintenant, il faut mettre du contenu à l'intérieur. C'est ce qu'on se bat à faire au jour le jour.
Mais c'est une recherche permanente? Vous fouillez
Pour un Congolais, ce n'est pas une recherche permanente parce que nous grandissons déjà avec l'idée que même si l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc il y a le fait qu'on nous a toujours dit, même si vous avez des problèmes, résolvez déjà celui du corps, c'est essentiel.
Et c'est le cas de votre héros, vous publiez Le Commerce des Allongés, le héros donc s'appelle Liwa Ekimakengai. On est à Pointe-Noire au Congo, comme souvent avec vous. Liwa est mort, il est au cimetière du Frère Lachaise, mais il se réveille, à moins qu'il soit en train de rêver. Toujours est-il qu'il vole et qu'il est habillé avec un pantalon, pattes d'éléphant violet et des chaussures salamander rouges avec semelles compensées. Belle allure. Alors, c'est un peu bizarre. Le monde lui apparaît sans dessus-dessous.
Oui.
C'est-à-dire que le ciel est en bas, le sol en haut. Enfin, on s'habitue à tout. Premier objectif pour Liwa Ekimakengai, retourner chez lui, enfin chez sa grand-mère, Malembe. C'est elle qui l'a élevé. On est à Pointe-Noire et il veut regagner la rue du Joli Soir.
Voilà, c'est une rue...
Elle existe, cette rue du Joli Soir. C'est magnifique.
Et mieux encore, non seulement la rue du Joli Soir existe... Mais cette rue doit son nom à un bar qui s'appelait le Joli Soir. Et le Joli Soir, c'était le bar de mon oncle. Mon oncle, qui était un grand petit commerçant dans le quartier, avait créé ce bar dans lequel venaient jouer les orchestres amateurs. Et comme le bar était mitoyen à notre maison, moi j'avais créé dans le mur mitoyen un petit trou d'où je pouvais regarder tous les concerts qui se jouaient au Joli Soir. Et parfois, je faisais payer les petits-enfants du quartier. Ils me donnaient 1 franc, 2 francs. Et ils venaient voir 5 minutes le concert et je changeais. Je me suis fait beaucoup d'argent avec ça. Hein.
Et le frère Lachaise?
Le frère Lachaise...
C'est le même que le père Lachaise?
C'est le même que le père Lachaise, dans la mesure où on a toujours eu l'idée que... En France, le Père Lachaise, c'est le cimetière le plus célèbre. Il y a des célébrités à l'intérieur, il y a le prestige. Et même dans le livre, il est dit que c'est plus facile d'entrer à l'ENA ou à l'École nationale supérieure que d'entrer au Père Lachaise. Il y a des gens qui tueraient leur maman pour rester à l'intérieur du Père Lachaise. Et nous, à cette époque, on avait pensé un jour qu'il fallait donner à un cimetière le nom du Père Lachaise, mais il était déjà pris et on a dit peut-être Frère Lachaise serait bien pour un cimetière de riches. Mais au même moment, ce sont les pauvres qui ont donné à leur cimetière le nom de Frère Lachaise.
Alors, il y a un dispositif particulier pour ce roman parce que c'est écrit à la deuxième personne du singulier, c'est le tu.
Oui.
Donc quelqu'un, on ne sait pas trop qui, parle à Liwa Ekimakengai et lui raconte en fait ce qui s'est passé et ce qui se passe. Pourquoi vous avez choisi le tu?
Parce que je pensais qu'écrire un roman à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le tu, ça créait une sorte de proximité, d'intimité avec le lecteur. On ne sait pas qui parle, on a l'impression que le narrateur n'est pas le personnage. Parce que quand vous écrivez un roman à la première forme, en disant par exemple « je me lève, je vais faire une émission à Europe 1 », moi qui parle, je suis à la fois le narrateur, mais je suis aussi le personnage de mon histoire. Mais quand quelqu'un vient vous dire « il se lève, il va faire son émission à Europe 1 », c'est qui le narrateur ? Ce n'est plus le personnage. Donc, c'est quelqu'un qui est caché comme ça, comme un dieu. Il voit tout. C'est ce qu'on appelle le narrateur omniscient. Et ici, j'ai créé un narrateur omniscient qui aurait pu être Dieu, mais pour le rendre plus humain et plus peut-être proche de nous, j'ai mis le « tu ». Le tutoiement est une forme de rapprochement, est une forme vraiment de proximité.
Et tout compte dans les romans d'Alain Mabankou, même le nom du héros, Liwa Ekimakingai, qui veut dire « la mort a eu peur de moi ».
C'est aussi le symbole selon lequel, dans mon ethnie des Bembe, donc au Congo-Brazzaville, on ne donne pas le nom par hasard. On ne vient pas par un caprice regarder le calendrier, dire « bon, on va lui donner Sébastien ». Non, ça n'existe pas chez nous. Si le jour où vous allez naître, eh ben, il y a eu un orage, vous allez vous appeler Jean-Pierre Orage. Si le jour-là, vous êtes né dans une bananeraie, on vous appellera bananeraie. On ajoute simplement le nom de l'ancêtre ou de papa. Et moi-même, mon nom, Mabankou, c'est la transposition du nom de Mabaou. C'est-à-dire, quand j'étais né, j'étais frappé tellement de fièvre qu'on a dit, ah, l'enfant-là, il a toujours le Mabaou. Donc, c'est Mabankou. Et donc, du coup, c'est une sorte de transposition que j'ai faite aussi dans le roman où chaque nom d'un personnage, s'il est africain, il exprime une réalité que les Congolais qui parlent ma langue ou quoi là connaîtront. C'est une sorte de bonus pour les Africains et autres qui pensent toujours qu'aujourd'hui les noms sont donnés par hasard. Il y a aussi des noms farfelus à l'intérieur, comme De Montaigne,
Marteau-Piqueur,
Papa Bonheur. Il y a des noms que j'essaie de transposer en langue française. Papa Bonheur, c'est quelqu'un qui était censé donner du bonheur à tous les enfants.
Il est particulier.
C'est un gourou. Il a une église. Il s'appelle Papa Bonheur. Les enfants courent après. Mais il a une attention particulière pour les enfants marginaux. Les marginaux, c'est nous, ben c'est les albinos, c'est les paralytiques. Même les jumeaux sont considérés comme des marginaux chez nous. Et donc, les marginaux peuvent donner le pouvoir. Donc, il faut simplement assurer, comme ils pensent, des crimes sacrificiels sur ces enfants.
Voilà, je voulais y venir plus tard, mais puisqu'on en parle, Papa Bonheur, à un moment, il est accusé d'avoir pratiqué un meurtre rituel sur un albinos.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est un roman qui parle des fantômes et gothique, un peu comme ça, où on se balade avec un fantôme. Mm-hmm. Mais c'est aussi une sorte de visite du Congo et de ce qui s'y passe. Mm-hmm. Et là, il y a cette histoire-là. Qu'est-ce que ça symbolise ?
J'avais pensé qu'il fallait une sorte d'introspection, même de la société congolaise et par ricochet de la plupart de beaucoup de sociétés africaines dans lesquelles les traditions et la modernité se livrent une bataille mais féroce parce que pour gagner de l'argent, pour être ministre, pour être parlementaire, pour être, je ne sais pas, président de la République, certains hommes politiques pensent qu'il faut sacrifier une vie humaine, de préférence la vie d'un albinos, de préférence la vie d'un jumeau, de préférence la vie d'un paralytique. C'est tellement ancré dans leur pratique occulte que c'est devenu presque la légitimation par le pouvoir des crimes rituels. C'est une sorte de génocide. Hein. Le génocide, c'est ça, quand vous vous attaquez à un groupe de population pour ce que ce groupe est, pour ses convictions, pour ses pratiques, etc. Si vous dites que je vais éliminer tous les albinos de la Terre, vous êtes dans la définition qu'on donne du génocide. Donc il y a comme ça des massacres et des génocides qui se passent dans le silence total, mais sous le couvert des traditions. Et c'est ça que je voulais pointer aussi dans le livre.
Et on se retrouve dans un instant pour retrouver Liwa Ekimakingai qui va assister à ses propres funérailles. Tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Le commerce des allongés au seuil, c'est le nouveau roman d'Alain Mabankou qu'on a la joie de recevoir aujourd'hui. Mmh. Alain Mabankou, donc c'est l'histoire de Liwa et Kimakingai qui se réveille dans sa tombe au Frère Lachaise. Et puis en fait, son premier réflexe, c'est d'aller retrouver sa grand-mère qui l'a élevée. Et donc, tout simplement, il prend la route, quoi. Et puis, il marche jusque chez lui, sauf que lui, il est mort. Et il arrive, et en fait, il assiste à ses propres funérailles.
Oui.
Ça nous fait penser à quelque chose, ça. À un grand roman américain, de Tom Sawyer.
Oui, je pense de Tom Sawyer, parce que moi, j'ai été aussi en plein dans le roman de Tom Sawyer, dans le roman des personnages de Tom Sawyer, de Huckleberry, de toute cette sorte de fantaisie dont on retrouve les traces ici. C'est une enfance... vraiment dans laquelle le fantastique le disputait peut-être aussi à la fantaisie. Ce que j'aimais dans ces romans d'enfance, c'est que les enfants étaient les plus grands aventuriers et en même temps les plus grands rêveurs. Ils ne savaient pas séparer la frontière entre la réalité, le rêve, la mort et la vie dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est une sorte aussi de tribu que je paye à ces lectures que j'ai faites de la littérature américaine, que ce soit de Mark Twain, que ce soit des livres comme Des souris et des hommes, de Steinbeck, Les raisins de la colère, tout ça là, les Faulkner. Donc j'étais à l'intérieur même de cette sorte de littérature, sauf que c'est chez Mark Twain que j'ai retrouvé une enfance perturbée, mais en même temps une enfance à la quête vraiment de l'imagination.
Parenthèse, parce qu'on va continuer à parler du roman, mais c'est vrai que ça vous définit assez bien, ça, ce roman, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des mythes et des contes africains, la langue française, je dis africain, mais plutôt congolais, et puis cet esprit américain, du roman américain à intrigue. Et c'est ce mélange, en fait, qui vous constitue comme écrivain.
Oui, je pense que c'est ce mélange, c'est-à-dire que le côté narration dans la recherche de la forme, dans la recherche de cette légèreté élégante de l'écriture, ça c'est l'influence que je prends dans la littérature occidentale, en particulier la littérature française, qui est probablement l'une des plus élégantes qui soit. Mais il y a aussi cette forme de description des personnages où on s'attarde, par exemple, sur la grand-mère. On regarde les éléments physiques, on regarde les éléments psychologiques, on s'attarde à la manière proustienne à tourner autour. Et puis, l'intrigue elle-même, parce qu'il faut toujours une histoire qui puisse captiver le lecteur ou la lectrice pour qu'on tourne les pages, mais de manière aussi peut-être très palpitante. Et c'est là peut-être que j'ai appris... du côté des Noirs américains, lapsus révélateur. C'est là que j'ai appris du côté, parce que j'ai beaucoup lu Chester Himes pour les intrigues policières, mais j'ai lu beaucoup de romans, que ce soit suspense, que ce soit des romans très, très personnels, comme du côté de Beloved, de Toni Morrison, etc. C'est cette intrigue-là que je cherchais, une histoire d'amour un peu glauque, mais très, très, très prometteuse.
Et Liwa revient chez lui et tout de suite, il est banni en fait par des gens qui le voient, qui ont la frousse, mais qui quand même l'affrontent et lui disent de rentrer dans son cimetière, quoi. Et en fait, petit à petit, on assiste aussi à tous les rituels ou en tout cas les manières de voir la mort et les fantômes là-bas. Est-ce que, parce que c'est souvent rappelé que ça vient des croyances de l'ethnie des Babembe. C'est quoi l'esprit des Babembe?
L'esprit des Babembe, c'est que les morts et le vivant sont dans le commerce, c'est-à-dire dans l'échange. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Le commerce des allongés ». Et que lorsque vous mourrez, vous ne partez pas pour toujours. Vous êtes là en tant que protecteur, vous êtes là aussi peut-être en tant que destructeur, ça dépend des raisons de votre disparition. Et pour moi, c'était important de faire promener ce personnage du cimetière jusqu'à la maison de sa grand-mère, où il arrive, et la vision qu'il a de voir sa grand-mère, mais il voit son propre cadavre, donc il se voit presque dédoublé, et quand il voit son cadavre, il assiste en réalité à ses funérailles, puisque quand vous êtes de l'autre côté de la vie, eh ben, la logique n'existe plus. Les histoires qui se sont passées peuvent se dérouler dans un présent où vous êtes en face de ces histoires. Le temps est pratiquement suspendu. On a l'éternité devant soi, comme dirait l'autre. L'éternité, c'est long, surtout les derniers jours. Oui. Donc, il y a, dans ce sens, pour moi, presque le sens ironique d'imaginer une réalité qu'aucun vivant n'a vécue, en fait. Qui peut parler de la mort alors qu'il n'est pas mort ? Et qui peut écouter le mort alors qu'on ne croit pas que les morts peuvent avoir une réalité ? Ce sont des questions fondamentales. Le roman est peut-être l'espace dans lequel on discute de ces grandes questions.
Et alors, ça rigole pas. Les funérailles, là-bas, ça dure plusieurs jours.
4 jours,
il y a des
minimum.
Chanteuses, danseuses, pleureuses qui viennent, qui sont rémunérées, enfin, en tout cas, qui sont logées. Puis on donne un peu de sous aussi.
Oui.
Vous explorez ça aussi, quoi, ces rituels-là.
J'explore ça parce qu'il m'était arrivé que ma mère, ne voyant pas qu'il pouvait me garder, me dit de venir avec elle dormir pour les funérailles de quelqu'un qui est un cousin, un oncle. Et là, on voyait que les gens convergeaient vers la parcelle du disparu. On dormait par terre, on avait installé des nattes, on avait barricadé les rues, tout le monde dormait dehors, on préparait les brochettes, on préparait du café, les danses commençaient à être palpitantes, et puis arrivaient ces belles femmes habillées en rouge, qu'on appelle les danseuses pleureuses, qui sont là, qui ont été rémunérées aussi pour pleurer le cadavre, parce qu'il faut consoler le cadavre. Et c'est cette danse-là, dans la nuit, avec les roulements des tambours, avec des sueurs partout, avec des hommes qui sont en marcel, qui sont en train de danser, certains badigeonnés de kaolin. Et parfois, tu te dis, mais où sommes-nous ? Et au bout d'un moment, des couples se forment. On n'est plus venu pour le cadavre. On est venu pour continuer la vie, peut-être donner la vie, puisqu'il y a des couples qui vont se marier. Pendant ces funérailles, il y a des couples qui vont avoir des enfants à l'avenir. Donc, c'est un peu comme on dit en droit, le mort saisit le vif. C'est-à-dire que je suis mort, mais je passe vraiment le bâtonnet ou le bâton au vivant.
Ce qu'on apprend aussi au sujet de la mort, c'est que perdurent les inégalités. C'est-à-dire qu'il y a le cimetière des riches et le cimetière des pauvres.
Oui.
Il ne s'agit pas de se mélanger.
Moi, j'aurais parié que la mort serait la fin des inégalités. Mais dans le roman, vous voyez comment les inégalités et les injustices continuent même après la mort. Vous êtes respecté si vous êtes enterré dans un endroit respectable. C'est pour cela que beaucoup de familles, chez nous, font des crédits, prennent des crédits, ramassent, comme on dit, de l'argent dans toute la famille pour au moins donner l'illusion qu'on est bien et que la mort, même dans la mort, nous sommes restés des familles dignes. Et donc, en l'occurrence, mon roman se passe pratiquement dans le cimetière des pauvres. Et de temps en temps, il y a certains défunts qui, le jour de la Toussaint, vont prendre un petit pot chez les cimetières des riches. Et là, vous voyez que même dans la tombe, on discute des grands problèmes politiques de ce monde. On discute à l'époque du général de Gaulle, de Pompidou, etc. etc.
J'ai oublié de dire qu'on rigole beaucoup aussi. Petite pause et on retourne rue du Joli Soir dans un instant.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Alain Mabankou pour le commerce des allongés au seuil, l'histoire de Liwa et Kima Kingai qui se réveille dans sa tombe du frère Lachaise. Il est mort et il marche vers la maison de sa grand-mère qu'il veut retrouver. Hein, c'est normal, il a envie de rentrer chez lui. Il ne sait pas trop ce qu'il fait là, où il en est. Il voit le monde sans dessus-dessous. C'est très, très étrange. Ça commence comme un roman de fantôme. Mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est aussi une visite de Pointe-Noire et des inégalités. C'est un roman aussi politique, social. Un roman où on rit beaucoup aussi, puisque c'est du Alain Mabankou. On rit entre les lignes comme ça. Et parfois, on rit pendant la tristesse en même temps. Mais ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous aviez décidé de vous faire un petit roman de fantôme sympa et tout, avec une intrigue et puis une enquête, parce qu'évidemment, tout au long du roman, on veut savoir pourquoi il est mort. Oui. Il bossait, lui, il était commis de cuisine au Victory Palace, il n'y a aucune raison qu'il meure, parce qu'il est assez jeune. Est-ce que vous vouliez faire un roman fantôme et malgré vous, En vous baladant dans Pointe-Noire par le biais de votre personnage, vous êtes arrivé à un roman aussi politique et social ou alors est-ce que dès le départ, le projet était clair?
Non, dès le départ, le projet n'était pas clair parce que moi, je suis encore un écrivain artisanal qui se laisse emporter par le personnage qu'il est en train de décrire. En général, quand j'écris un livre, je commence par camper un personnage, puis je me demande mais d'où vient-il, que fait-il, qui sont ses parents, ouais, etc., etc. Mais par la suite, plus j'étais en train de décrire ce que vous pourrez appeler le roman fantôme, je me suis rendu compte que j'étais en train, en fait, de faire une sorte de biographie d'un espace de vie en Afrique. Et par voie de conséquence, les personnages qui sont à l'intérieur, ça m'a permis donc, du coup, petit à petit, de poser peut-être les fondements même de la féminité en Afrique, la présence de ces femmes du grand marché, le pouvoir de la femme.
Oui, il y a un moment, une femme très très en colère parce qu'elle a besoin d'un stand au marché et on ne veut pas lui donner, on ne veut pas le donner à son amie, donc elle se met à nu. Et alors là, on arrête tout, on lui donne ce qu'elle veut parce que c'est interdit ça.
C'est interdit de voir la nudité d'une maman parce que nous sommes toujours chez nous, on dit toujours la femme est le lieu exact de la naissance. Donc si on vous montre, une maman qui a eu des enfants vous montre sa nudité, elle vous a maudit. Celle qui
tout le monde tourne le dos tout de suite.
Tout le monde tourne le dos, on vous donne tous les avantages. Et moi j'ai essayé de mettre en lumière cette sorte de pouvoir invisible qu'ont les femmes dans les sociétés africaines. Les femmes, on nous les présente comme étant des peaux, de décors, etc., etc. Mais moi, j'ai l'image de ma mère qui dirigeait la maison. Mon père qui tremblotait dès qu'il entendait que, bon, Pauline va arriver dans 10 minutes, il faut vite arranger partout, sinon on est foutu. Donc, il y avait cette sorte de domination féminine importante pour notre éducation parce que moi, j'ai longtemps plus craint ma mère que mon père. Parce que je me dis, bon, avec le papa, ça va s'arranger, je fais une bêtise et tout. Mais avec la maman, vous manquez aux préceptes qu'elle avait édictés, vous êtes cuit. Parce que la colère de ma mère durait une semaine. Non seulement ça durait une semaine, mais pendant 2 mois, elle te rappelait la bêtise qui datait d'une année. Donc il y a, dans l'écriture que je faisais, l'idée d'écrire un roman qui lui-même m'a poussé vers l'introspection dans les grands problèmes vraiment sociaux, politiques et peut-être même de l'injustice dans les sociétés africaines.
Et d'ailleurs, il y a une femme puissante, c'est Malembe, la grand-mère de Liwa. Elle est inspirée de qui?
La grand-mère est inspirée de ma propre grand-mère.
Elle a eu sa maison toute seule,
elle
sans l'aide
de personne.
Elle a eu sa maison toute
seule. Elle a eu sa maison toute seule. Ma grand-mère avait sa maison toute seule. Ma propre mère aussi avait sa maison toute seule. C'est ma mère qui a ramené un homme à la maison. Donc le père est venu et il y avait toujours cette sorte de discussion entre mon père et ma mère et mon père dans cette sorte de capitulation masculine, se disant que bon, je vais quand même garder un honneur. Il dit, tu fais ça parce que c'est ta maison. Il disait ça à ma mère. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi le père dit ça? Parce que nous, les enfants, on nous avait toujours dit, la maison appartient au père. Mais là, c'était le contraire. C'est pour cela que, bon, la seule peut-être malchance que j'ai eue, parce que si j'avais eu une sœur, je lui aurais dit, tu dois prendre le caractère de cette mère qui a compris tout de suite que le pouvoir ne se donne pas. Tu es une femme, si tu ne le prends pas en Afrique, on va t'imposer des choses qui ne seront pas dans son sens, dans ce sens-là. À tout instant et quel que soit ce qu'il y a dans la société, le pouvoir doit se prendre parce que ben, vous le méritez, parce que c'est vous qui êtes là depuis notre naissance.
Alors c'est pareil, dans le roman, dans ce roman de fantômes arrivent un peu malgré vous des problèmes politiques et sociaux, mais il y a aussi, on sent tout à coup des contes et des mythes qui affluent au fur et à mesure de l'écriture, comme si en écrivant, ça vous rappelait un conte, un mythe, et vous l'intégrez à ce roman.
Oui, j'ai toujours pensé aussi qu'il faut de la digression lorsqu'on est en train de raconter une histoire. Et l'art de digresser, c'est ce qui distingue le conteur de simplement celui qui fait le procès verbal ou qui raconte de manière droite une histoire. Et donc, c'est pour cela que pour moi, c'est toujours lorsque je raconte une histoire eh ben, j'y intègre tout ce qui est mythe, tout ce qui est... Je prends un sentier pour revenir. Je dois ressortir en dehors de la réalité l'aspect fabuleux de l'histoire.
Alors, cette partie-là, bon, on l'a largement entamée, mais normalement, elle est dévolue à la discipline et aux méthodes de l'écrivain que je reçois. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous écrivez, dans quelle ambiance? Est-ce que vous avez besoin de silence? Est-ce que vous êtes dans un bureau, un bistrot?
Alors, contrairement, j'ai toujours peur d'écrire dans la solitude. J'ai été un fils unique, je suis un fils unique, je sais ce que c'est la solitude. J'ai appris à écrire dans, dans le bruit, dans la rumeur du monde. Je peux m'asseoir dans un coin, dans un café, les gens sont en train de jouer de la musique à fond, mais si je suis dans mon histoire, je suis loin. Tout au plus, le bruit et la fureur autour de moi va donner au roman la saveur même de la vie. Ce n'est pas parce que vous vous êtes retiré sur une île déserte que vous allez créer, recréer le monde. Pour créer le monde, j'ai besoin d'être dans le monde.
Et vous écrivez au crayon alors ?
J'ai fait les deux. Par exemple, quand je suis dans les avions, mais pour les premiers romans, je les ai écrits, j'ai écrit à la main, vers cassé, je l'ai écrit à la main, bien avant aussi, toute ma poésie, je l'ai écrite à la main. Il y a d'autres romans qui, j'ai commencé les 30 premières pages à la main. Je sais que ça coûte, ça fait rigoler aujourd'hui, mais quand je regarde ces pages, je vois comment c'est quand même important d'avoir une vision de l'écriture raturée.
Est-ce que vous avez une discipline d'écriture? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez à 9h jusqu'à midi et puis 14h, 18h? Ou est-ce qu'il vous faut au moins écrire 3 heures par jour ou des trucs comme ça?
Non, je n'aime pas faire le régime alimentaire en écriture. J'aime laisser pratiquement ma faim et ma soif satisfaire vraiment ce dont j'ai envie de manger, de boire. Donc j'écris à tout instant, je n'ai pas d'agenda, je ne suis jamais pressé. Et donc la discipline, je ne la connais pas. C'est parce que j'écris dans les désordres que j'arrive à écrire un roman ordonné.
Et après, on est rassasié avec Le commerce des allongés au seuil. Merci beaucoup Alain Mabankou.
Merci beaucoup.
Dans un instant, visite de bibliothèque, nous partons chez Stomy Bugsy, dis donc.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, il est l'heure de visiter une bibliothèque. J'avais croisé, il y a quelques mois, dans l'émission du camarade Philippe Vandel, Stomy Bugsy, le rappeur fondateur du ministère amer. Son papa, lui, est un gangster, vous savez. Enfin bref, on avait parlé bouquins et je lui ai demandé si éventuellement, peut-être, je pourrais venir voir ses livres. Il a dit oui. Il joue en ce moment « J'irai à Détroit » au petit théâtre du gymnase tous les mardis à 19h30. J'ai profité de l'occasion. Allons voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Stomy Bugsy.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous recevoir. On est où en fait ?
Alors, On est chez moi. On est dans ma demeure parisienne, devant ma bibliothèque.
Mais je sais qu'il y a d'autres livres ailleurs.
Ah ouais, alors il y en a l'autre moitié de tous mes livres est à Los Angeles, où j'ai habité pendant presque 5 ans. Et il y a
De dire ça.
J'étais parti terminer ma formation de théâtre à Stella Adler Acting School. Et après, il y a une autre partie de mes livres qui est dans le 95. Et il y en a chez ma mère au Cap-Vert aussi. Et il y en a aussi chez mon père. Mmh. Donc voilà, là, il y a...
Donc là, on est dans une petite pièce. Il y a juste une télé, un canapé, un piano, enfin un piano électrique. Uh-huh. Et puis sur tout le mur, il y a une bibliothèque. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de classement particulier.
Non.
Tout se côtoie. Il y a des comics, il y a des livres politiques, des romans, tout un peu mélangé.
Des livres spirituels, des romans, ouais.
Vous n'avez pas de fétichisme de rangement de livres?
Non, j'aime pas en fin de compte. J'aime bien même les livres que j'ai pas lus, je les mets comme ça et des fois je me lève en pleine nuit ou le matin, je vais lire celui-là.
Mais vous savez où ils sont ?
À peu près, ouais, à peu près.
Et alors il y a beaucoup de comics et notamment il y a la couverture de Superman versus Mohamed Ali et devant il y a les figurines de Superman et Mohamed Ali qui sont en train de faire un combat de boxe. Est-ce qu'il avait vraiment des chances Mohamed Ali contre Superman ?
Il a déjà gagné Superman contre Mohamed Ali. Mohamed Ali a existé, Superman, non, c'est juste une imagination, mais bon, Superman a inspiré plein d'hommes à devenir meilleurs aussi, donc les deux se valent, et c'est en fin de compte, c'est un collector's.
Ah ouais, c'est un vrai quoi.
Ouais.
Et vous l'avez trouvé où ?
À Los Angeles. J'ai ramené quelques livres de Los Angeles quand même.
Et c'est Mohamed Ali aussi ici, là. Il y a un cadre photo. Ouais,
exactement. Il y a Warren Beatty aussi à l'entrée aussi.
C'est passion Mohamed Ali ?
Ouais, ouais.
Depuis toujours.
C'est The Greatest. Depuis toujours. Là, il y a le livre L'âme du papillon. Voilà. Que j'ai fait la préface de ce livre-là.
Pourquoi ils vous sont venus vous chercher pour la préface ?
Ils ont dû demander à leur éditeur quel était l'artiste, un des artistes le plus influencé par Mohamed Ali, qui adorait Mohamed Ali. On leur a dit Tommy Bugsy. Voilà, j'ai eu l'honneur de faire la préface.
Et qu'est-ce qui vous fascine chez Mohamed Ali ?
Sa grandeur d'âme, son humour, sa beauté, sa verve, sa rapidité d'esprit et son abnégation. De jamais avoir trahi ses convictions. Malgré qu'on lui ait tout enlevé dans la vie, il n'a jamais trahi ses convictions. Et l'amour du peuple, vraiment l'amour de son peuple en premier, parce que c'est son peuple qui souffrait, qui était dans la misère, avec la ségrégation, le racisme, l'esclavage. Et malgré ça, il s'est battu et grâce à lui, on en est ressorti grandi.
Et alors je suis venu vous voir parce que je vous ai rencontré chez Philippe Vandel, je faisais une chronique de bouquins, et pendant la pub on a parlé bouquins, c'est quoi votre fréquence de lecture, qu'est-ce que vous aimez lire, quand est-ce que vous lisez, depuis quand ?
Je lis depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que surtout depuis l'arrivée des téléphones, on doit se battre maintenant pour instaurer un temps de lecture. Avant on avait le temps de s'ennuyer. Maintenant, avec les téléphones, on s'ennuie jamais. Notre esprit est toujours embrouillé, occupé. Donc maintenant, il faut vraiment se réserver du temps de lecture. Et il y a de moins en moins de gens qui lisent aussi. Il y a moins de gens qui lisent, donc on est moins inspiré par les gens. Donc il faut soit avoir un cercle de lecteurs, ou soit moi, ce que je fais, c'est que je me lève à 5h du matin et j'essaye de lire de 5h à 7h.
Ah oui, vous avez une discipline de lecture.
Ouais, j'essaye quand je suis dans mes bonnes périodes.
En ce moment, c'est quoi ?
En ce moment, c'est pareil, toujours.
De quel livre ?
Bah, en ce moment, je lisais, j'étais revenu sur mes classiques, sur les rituels kémites.
Ah, c'est quoi ça ? Alors, vous avez pris un livre là, le livre des rituels kémites.
Voilà, c'est quoi ? C'est sur les rituels de naissance avant l'arrivée des religions. Voilà. Tous les rituels qu'il y a à faire. Enfin, moi, j'aime pas dire païen. Parce que païen, ça fait comme si on ne croyait pas en Dieu. Alors qu'au contraire, dans la philosophie africaine, on croit en un Dieu unique. Il n'y a qu'un créateur. Mais voilà, c'est juste avant l'arrivée de tous ces dogmes. Voilà, c'est les fondements de la philosophie africaine. Voilà, j'aime beaucoup. Ça me rattache à mes ancêtres, à mes racines. Et vous voyez aussi, j'ai aussi la Bible, j'ai aussi le Coran aussi ici. Voilà, je fais ma propre religion. Je mixe un peu tout ça et je prends ce qui est de bon pour moi, ce qui me parle.
Ouais, il y a beaucoup de spiritualité au milieu d'autres livres et il y a aussi des vieux livres. Je vois là la Cappella Sistina in Vaticano.
Exactement.
La Chapelle Sixtine au Vatican, j'imagine. Un vieux livre, grand format. Ça doit être illustré et tout. Qu'est-ce qu'il fait là ?
On me l'a offert il y a quelques années. Attends,
on essaie de le prendre, mais il y a plein de trucs au-dessus.
On me l'a offert il y a quelques années. Et c'est un livre que j'ai trimballé partout avec moi. Ça fait plus de 20 ans.
Waouh !
Je l'adore et c'est un collector.
Il fait bien 60 cm de large.
C'est un collector.
Wow. Voilà. Avec des illustrations en couleur et tout. De la Chapelle Sixtine, évidemment.
C'est beau, hein ?
Tout est en italien, vous parlez un peu italien ?
Non, pas encore, dans une autre vie. Dans une vie. Par contre, c'est une des langues que j'adore.
Ça chante, quoi.
Ouais, c'est une langue que j'adore. Dès que j'entends une femme parler en italien, je dis arrêtez-vous, s'il vous plaît.
Et la Chapelle Sixtine, vous l'avez visitée ?
Oui, oui, bien sûr.
Magnifique.
Michel-Ange nous a éblouis. Hein.
Bon, là, ça ne se pose pas sur les genoux pour lire, quoi. Il faut le poser sur le canapé, comme on vient de faire. Ouais. Surtout pour ne pas l'abîmer non plus. Ouais. Magnifique. Bon, il y a des livres plus petits aussi. Je vois là, à côté de la collection de lunettes de soleil, je vois Frères d'âme de David Diop au seuil. qui avait fait un gros gros succès. Je vous rends le micro.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre-là ? Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà. Ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est le... Vraiment, il a montré à quel point les êtres humains, pendant la guerre, pouvaient descendre dans les bas-fonds et dans la barbarie humaine. C'est l'histoire d'un soldat qui pète un plomb et qui décide d'aller découper ses victimes.
Parce qu'il vient de voir son frère quasiment, voilà, se faire tuer sur le champ de bataille.
Devant lui, voilà. Et qu'est-ce que j'avais marqué là ? Il faut faire attention quand on se pense libre, de penser ce qu'on veut, de ne pas laisser passer en cachette la pensée déguisée des autres. La pensée maquillée du père et de la mère, la pensée grinée du grand-père, la pensée dissimulée du frère ou de la sœur, des amis, voire des ennemis.
Ouais, ah oui, vous êtes un surligneur de livres.
De temps en temps.
Sur le même thème, là, il y a un livre sur les tirailleurs sénégalais. Bon, là, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Mm-hmm. C'est quoi ce livre ? Pourquoi vous...
Enfin, moi, avant de monter sur scène, souvent, je... Ma pièce de théâtre, un jour, j'irai des trois, c'est l'histoire d'un tirailleur qui revient des fronts de Stalaga allemand et qui est jeté en prison à Fresnes en 1944 avec un prisonnier français et un prisonnier américain. Et souvent, j'amène ces livres avec moi juste avant de monter sur scène pour me reconnecter à tous ces gens qui ont souffert et m'inspirer aussi.
Alors, je vois un de mes auteurs préférés, Richard Brautigan, le poète américain. D'ailleurs, il y a beaucoup de littérature américaine. Et ce recueil de poèmes, il se trouve que c'est celui qui a le plus beau titre, qui s'appelle « Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus ». Et qu'est-ce qui fait chez vous, ce livre-là ?
On me l'a offert pour mon anniversaire. On me l'a offert le 21 mai. Donc, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu quelques poèmes que j'ai adorés. Et voilà. Je compte bien le terminer il n'y a pas longtemps. Mais on m'en avait parlé depuis longtemps. Et une amie m'a offert ce livre. C'est beau.
Vous en lisez un ?
Bien sûr.
Il y a la version anglaise à gauche, la version française à droite.
Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu.
Baiser fantôme, c'est le titre. Et en anglais, ça donne quoi ?
Phantom kiss. There is no worse hell than to remember vividly a kiss that never occurred.
Je voulais tester votre anglais parce que vous avez vécu 5 ans à Los Angeles, c'est impressionnant. Vous parliez anglais depuis longtemps ou c'est là-bas que vous êtes vraiment devenu bilingue ?
Non, c'est là-bas. Quand j'y étais, je ne parlais pas vraiment anglais. J'avais peut-être 20 mots dans mon vocabulaire. Et en prenant les cours de théâtre, en habitant là-bas, en côtoyant les Californiens, c'est venu naturellement.
Et vous écrivez en anglais un peu ?
Oui, aussi.
Vous avez déjà voulu chanter en anglais ou faire des...
Bah oui, j'ai enregistré des titres en anglais, j'ai joué en anglais, j'ai joué des pièces de théâtre en anglais, oui. J'ai joué Le Marquis de Sade, Quills, en anglais. On peut retrouver des extraits de moi qui joue en anglais à l'école Stella Adler Acting School sur YouTube.
Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas en fait ?
Bah, je faisais du théâtre, je prenais des cours de théâtre, j'habitais sur Hollywood Boulevard et Wilcox, et mon école de théâtre, c'était la Adler Acting School, elle était à même pas 2-3 blocs d'où j'habitais, donc voilà, je descendais de chez moi, je filais direct aux cours de théâtre.
Ouais. Ça devait être
et je faisais des pièces de théâtre, je passais des castings, des auditions, et après j'étais souvent pris en plus, ouais, j'étais souvent pris, après je faisais des castings, après j'ai eu un bel agent. Et je faisais des auditions, j'allais à la Paramount, à Universal Studios. Et j'étais souvent retenu dans les trois derniers. Et après, j'ai eu mon dernier petit garçon qui est né en France. Et je faisais plein d'allers-retours, Paris, Californie. Et mon agent me disait, mais non, il faut rester, c'est maintenant les séries, c'est maintenant les films. Et je disais à mon agent, non, il faut que j'aille voir mon fils.
Ah oui.
Et après, j'ai choisi. Après, un jour, j'ai parlé avec un... Il y avait un taxi, un Arménien. Il me parle, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il me dit, j'entends, vous avez un accent, qu'est-ce que vous faites ici ? Je lui dis, je suis acteur. Il me dit, ah bon, vous êtes acteur en France ? Je dis, non, maintenant je suis ici. Il me dit, d'accord. Et bon, c'était un Arménien, il avait un peu voyagé partout au monde. Il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas acteur chez vous ? Je dis, parce que, je ne sais pas, je vais réussir aussi ici. Il me dit, alors imaginez que Louis de Funès aurait fait comme vous. Il aurait quitté son pays. En France, il n'y aurait jamais eu de lutte funèse. Je sais pas, ça m'a... Il y a une petite étincelle dans ma tête. Je dis, mais il a pas tort. Et plus mon fils, je me suis dit, entre la froideur d'un Oscar ou de l'argent, la chaleur de mon fils, voilà.
Vous nous en lisez un dernier de Brantigan, là, celui-ci, là.
En français ou en anglais?
Bon, les deux, en français d'abord.
Alors, les rêveurs au chômage. J'ai de la peine pour les gens qui ne sont pas employés à rêver. C'est beau, hein? The unemployed dreamers. I pity people who are not employed at dreaming.
Et alors, quasiment l'inverse de Brantigan, vous avez pas mal, et aussi l'inverse de la spiritualité, il y a pas mal de bibles du succès, genre Père riche, Père pauvre, qui était un best-seller pour apprendre à faire des économies. Comment devenir riche de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il fait là?
Franchement, je sais pas ça. Pour moi, ça fait au moins plus
c'est
de...
C'est un vieux, ça.
Ça fait 15 ans. C'est avant qu'il soit président.
Ah, la tronche.
Ah, ouais. Et mais en fin de compte, celui-là, oui, je l'ai lu, c'est pas terrible. Mais
c'est bullshit,
ça,
comme ils disent.
C'est pas bullshit, au moins il a réussi, mais c'est pas. Mon livre de, un des livres de chevet, c'est Napoléon Hill. Ah. Réfléchissez et devenez riche. Ah. Ce genre
et
de
c'est
livre-là.
Quoi
ben, c'est un livre pour travailler sur soi, pour être une meilleure personne.
Ah, c'est pas forcément la richesse
non,
matérielle.
Non, c'est pas ça. Alors, à l'intérieur, j'ai surligné des choses. Alors, le manque d'autodiscipline. La discipline vient de la maîtrise de soi. Avant de pouvoir contrôler les circonstances, vous devez savoir vous contrôler vous-même. La maîtrise de soi reste le travail le plus dur de tout homme. Si vous ne conquérez pas votre être, vous serez conquis par lui. Vous verrez dans votre miroir à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Voilà, ce genre de livre. Et ce livre-là, en fin de compte, je l'ai trouvé dans la rue, mais la version anglaise.
Ah, génial.
La version américaine, dans la rue. Je marchais, plus à Los Angeles, c'est rare qu'on marche, et je marchais, je l'ai trouvé par terre. Et c'est un des livres qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche.
Parfois, c'est les livres qui vous trouvent, en fait.
Ouais, exactement. Think and grow rich.
Alors, juste à côté, il y a une sorte d'un autre Donald Trump. C'est des photographies du parrain,
ouais.
Avec Marlon Brando en bien couverture. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais un peu à trouver ça, cette imagerie aussi, chez vous. Pourquoi?
Vous n'êtes pas déçu, alors.
Qu'est-ce qui vous, parce qu'est-ce que qui vous plaît dans le parrain et dans cette imagerie?
D'ailleurs, c'est un des meilleurs acteurs du monde, Marlon Brando, avec l'association d'un des meilleurs réalisateurs, Francis Ford Coppola. Avec deux meilleurs acteurs au monde encore, ouais. Marlon Brando, Al Pacino. Donc là, on est servi en termes artistiques et de techniques. Et surtout dans les écoles que j'ai faites, la Stella Adler Acting School ou bien Method Acting Center à Paris, sur la méthode de Lee Strasberg.
Ce qui consiste à quoi, en fait?
À être un meilleur acteur, à gérer ses émotions. À construire son personnage, surtout. Savoir de quand on est sur scène, qu'est-ce qu'est notre personnage, d'où il vient. On ne monte pas sur scène en arborant un rôle sans savoir qui était son père, combien d'argent il a dans les poches, mon personnage, quelles sont ses peurs, quels sont ses rêves, quels sont ses fantasmes, quels sont ses cauchemars. Voilà, tout ça, ça fait partie de la construction du personnage de Stanislavski. Voilà.
Ouais, là, vous avez le livre, la voilà. Construction du personnage.
Voilà.
Est-ce que c'est lui qui a donné l'inspiration pour la méthode de Stavinsky, là, où je sais plus comment ça s'appelle, avec Michael Douglas, la série
Oui, bien sûr.
Qui raconte voilà. Comment. C'est l'histoire d'un prof de théâtre, en fait, qui se sert des émotions de ses élèves, et du coup, ça crée des conflits. Et ça
exactement.
Crée
des... En fin de compte, la méthode Actor Studio vient de Stanislavski. Michael Tchekhov, et c'est en France, c'est des méthodes russes que Lee Strasberg après a transformé avec Stella Adler. Voilà. Stella Adler, au début, ils ont créé l'Actor Studio ensemble, et après, Stella Adler a créé sa propre école. Mais tout ça, ça vient des techniques russes. Voilà.
Et donc, vous avez potassé ces bouquins et tout aux États-Unis.
C'est ma base, même avant. Avant, j'étais d'abord dans une école de théâtre ici, qui s'appelle Method Acting Center et qui existe toujours. Voilà, l'école de David Baruch. Il y a son livre ici. Voilà, David Baruch, c'est un
le seul fèche de l'acting.
Un de mes mentors aussi, David Baruch.
Hop.
Ah ouais, c'est bien surligné encore. Vous êtes un bon élève, en fait. Hein. Vous aviez des fiches Bristol et tout ça. Les cinq étapes du travail sur les sources. Ah ouais, il y a des extraits de scénario. Là, c'est Miss M avec Jack Nicholson. Pas mal.
Bah ouais, je conseille à tous les jeunes acteurs en France de lire le livre de
Stan ou le solfège de l'acting de David Baruch.
Voilà, le directeur de l'école Method Acting Center.
Je vois beaucoup de classiques aussi. Il y a Madame Bovary, il y a un Dumas dans le coin là-bas.
Bien sûr.
Alors pareil, hein, il faut les trouver parce qu'ils sont un peu dispatchés partout. Voilà. Qu'est-ce que vous y cherchez dans ces classiques?
Bah, je recherche la péripétie, l'aventure, et je me dis à l'époque. Peut-être que les auteurs avaient encore plus d'imagination, comme ils étaient encore moins pollués. Maintenant, on a moins d'imagination parce qu'on regarde beaucoup la télé. On n'a plus besoin de faire travailler notre esprit. On est rempli d'images tous les jours. À l'époque, il n'y avait rien. Donc, c'est le cerveau qui travaillait, qui se baladait de partout.
Qui créait ces images.
Voilà. Donc, ouais, c'est les péripéties, les aventures.
Et là, je vois un dictionnaire des rimes. Vous vous en servez beaucoup ?
Avant, oui. Avant, on s'en servait beaucoup avec Ministère Amer, avec Passy, quand on écrivait. Ouais.
Et comment ça marche ?
Bon, c'est assez simple, hein. Rime en aigre, tu vois, aigre, nègre, ouais. Maigre, l'algèbre. Ben, ça permet de pas tomber sur les mêmes rimes souvent, d'enrichir son vocabulaire.
Vous les connaissez par cœur, en fait, quoi ?
Un petit peu.
Les rimes en R, par exemple ?
Ouais, Ministère Amer, ouais. Père, mère... Non, mais justement, c'est bien pour trouver d'autres rimes, c'est bien.
C'est vrai que ça donne envie d'écrire une chanson. Apter, artère, atmosphère, austère, baptistère, baillardère, belvédère, bergère, bocagère, bouchère, boulangère.
Ouais, ça sert. Hein. Et des fois, quand on a une
ça
rime...
Ça crée presque une histoire, en fait.
Ouais, ça nous fait aller ailleurs, des fois. Rebondir sur quelque chose d'autre. Ouais.
Bah, c'est l'intérêt de la rime aussi, ça bien oblige sûr. À transformer le sens, finalement.
L'intérêt
quoi.
De la rime et l'intérêt de l'imagination. L'imagination. Faire voyager l'auteur.
Stomy, il y a le feu. On prend lequel? Un seul bouquin.
Je prendrais soit L'âme du papillon, ou soit prendrais Mohamed Ali, ou soit je prendrais Story de Robert McKee.
Ah, c'est quoi?
C'est pour écrire des scénarios. C'est un des maîtres de comment écrire un scénario. Aux États-Unis, Robert McKee.
Vous avez déjà écrit un scénario ?
Oui, j'en ai écrit plein. J'ai écrit bien ma pièce de théâtre, c'est moi qui l'ai écrite, avec David Desclos, un jour j'irai à Détroit.
Et vous écrivez où ?
Bah, j'écris ici, j'écris dans mon appartement dans le 95.
Mais je veux dire, est-ce qu'il vous faut un petit rituel ? Il vous faut un endroit très particulier ?
Ouais, j'aime bien...
Ou est-ce que ça peut être au bistrot, quoi ?
Non, j'aime bien écrire à Pigalle, dans un café... Voilà, je prends mon café le matin, comme ça, j'arrive tôt, à 6h du matin, et j'écris au fond d'un café caché. Voilà, et j'écris, ouais. J'aime bien le quartier Pigalle, aux alentours de la rue des Martyrs, où je suis né.
Merci beaucoup, Stomy Vuxy.
Merci à vous. Merci pour ce passage.
À bientôt.
À bientôt.
Et je rappelle, J'irai à Détroit, c'est la pièce dans laquelle joue Stomy Vuxy au Petit Théâtre de Gymnase tous les mardis à 19h30. Encore des livres dans un instant, lus et approuvés par l'équipe de La Voix est libre. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Et une nouvelle recrue, tiens, Clémence Pouletti, journaliste littéraire. Héloïse fait une pause cette semaine. Et notre libraire de la semaine, la fantastique Anne Burzinski, librairie L'écriture de Vaucresson, mais a-t-il besoin de la présenter ? Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
On commence avec vous, Anne, avec un roman corporatiste.
Exactement, un roman qui recrute, un roman de secte. Non, en fait, j'ai décidé de vous parler de La librairie sur la colline de Alba Donati, parue aux éditions Globe, ou en tout cas sur le point de paraître aux éditions Globe.
C'est-à-dire que c'est dans 3 jours, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le 4 novembre, donc ça ne saurait tarder quand vous nous entendez, mais je ne pouvais plus attendre, donc je vous en parle quand même. Et donc, qu'est-ce que cette histoire ? Ben, en fait, c'est l'histoire d'Alba Donati, qui est une poétesse italienne qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, voire pas du tout. et qui a ouvert sa librairie à la cinquantaine, dans son petit village de Toscane. Elle est retournée là-bas et elle a ouvert sa librairie. Mais alors, attendez, si vous regardez les photos sur Internet, etc., la librairie sur la colline porte bien son nom. Et les photos sont à couper le souffle. Il y a un vrai univers. C'est une espèce de petite maison perchée de contes de fées, en fait, qui donne sur les Alpes Apuanes. C'est enchanteur. Et donc, elle vous raconte à la fois comment elle en est venue au livre. Donc, pourquoi cet amour des livres, ça remonte à l'enfance. Donc, elle nous parle un peu de son enfance. Elle nous parle aussi donc de sa librairie, évidemment, des clients qu'elle y voit, qu'elle y connaît. Elle nous parle de ce fameux petit village dont elle vient et des auteurs qui ont vécu, de l'histoire de ce village. Des fois, vraiment, elle nous parle de l'histoire du village. Et aussi des auteurs qu'elle aime, évidemment, et notamment des auteurs italiens, pareil, qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est un peu un livre en étoile, comme ça, où on découvre de plus en plus de choses. Et c'est un vrai bonheur. En fait, quand on dit la librairie sur la colline, comme ça, ça fait un peu feel good, je trouve. mais en fait, vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, en fait. Et que,
elle était déjà libraire et elle a ouvert sa librairie ou elle faisait complètement autre chose?
Non, elle faisait complètement autre chose. Déjà, comme on disait, elle était poétesse et en plus, elle était dans l'édition. Et en fait, voilà, avec le côté librairie, elle était au plus proche des gens. En plus, elle s'occupait d'auteurs, mais qu'elle choisissait pas. Et elle disait, là, je choisis, en fait, les gens que je veux, les livres que je veux, ce que je défends, etc. Ça me ressemble, en fait. Et du coup, c'est extraordinaire, parce que j'ai noté, c'est typiquement le type de livre où vous notez 3000 livres que vous avez envie de lire derrière. C'est pour ça que je parle d'étoile, en fait, c'est que ça ouvre 3000 portes. Et c'est extrêmement bien écrit. C'est pour ça que je tiens à dire que c'est pas juste un petit feel good. Évidemment, ça nous fait ressentir énormément de bien. C'est un livre qui fait beaucoup de bien. Et effectivement, notamment, il y a le côté libraire, on en rigolait, mais c'est vrai, forcément, l'amour des livres est là. Mais c'est un livre qui dit beaucoup de choses et qui le dit extrêmement bien. Et on sent que c'est le livre d'une poétesse, quoi. C'est vraiment très bien écrit et c'est une vraie bouffée d'oxygène, en fait.
C'est le chemin inverse de votre vie à vous, qui êtes déjà libraire et qui allait devenir une grande poétesse un peu avant 50 ans.
C'est à peu près ça.
Vous nous donnez le titre, l'auteur, de la maison d'édition.
La librairie sur la colline, Alba Donati, les éditions Globe.
C'est parfait, comme toujours. Merci beaucoup, voilà, Berzinski. Clémence Pouletti, un livre étranger, roman étranger aussi.
Oui. Alors, Strega de Johan Lykkeholm. Alors, j'espère que je prononce bien le suédois. Traduit donc du suédois par Catherine Renaud et publié aux éditions La Peuplade il y a environ 2 mois. Alors, c'est un roman qui
jolie
est...
couverture.
Oui, très jolie couverture. Oui, je vous laisse la décrire, Nicolas.
Non, elle est bleue et en noir et blanc. Et il y a marqué Strega. Il y a une dame avec les yeux bandés par sa propre natte.
N'est-ce pas magnifique? C'est un roman qui est très sensuel, onirique. Et parce qu'il est mystérieux, il flirte un peu avec l'érotisme. Mmh. L'histoire, 9 jeunes femmes, toutes âgées de 19 ans, se retrouvent dans un cadre merveilleux et inquiétant, celui de l'hôtel olympique, perdu au fin fond de la forêt suédoise. Mmh. Elles sont accompagnées de seulement 3 femmes.
Ça fait
qui
peur.
Vont... Oui, oui, pour l'instant, ça fait peur. Oh, quoi, aucune. 9 jeunes femmes de 19 ans, bon. Qui sont accompagnées de seulement 3... qui sont accompagnées donc de seulement 3 femmes plus âgées qu'elles qui vont leur apprendre à devenir des femmes d'intérieur. Soit des épouses, soit des gouvernantes. Ça rigole pas. Alors, c'est
moins
trois...
peur.
Ouais, c'est moins
drôle. Ça rassure tout de suite.
Mais c'est
ça
9...
Fait peur aussi.
Pas sur l'avenir de l'humanité, mais...
Ça fait peur, oui. Ça fait peur différemment.
Voilà.
Et c'est 3 jeunes femmes de 10, c'est 9 jeunes femmes de 19 ans, toutes différentes, ont chacune leur particularité. Et en même temps, petit à petit, en dormant dans le même dortoir, en partageant les mêmes histoires, vont ne former qu'un seul corps. C'est très beau, très joli. Elles fument, boivent, mangent des bonbons ensemble. Donc
des
ces
bonbons.
Enfants...
Ouais. Elles mangent des bonbons.
Elles mangent des bonbons en fumant. Ouais, mais j'aime bien ce contraste, justement, femme, mais pas tout à fait encore. Ces enfants, pas encore femmes, justement, aux yeux aussi sombres qu'aux lèvres au sucré, sont toutes les 9 très belles et très soudées. Or, c'est le moment où rien ne va. Une d'entre elles va disparaître du soir au lendemain.
Trop de bonbons.
Je ne peux pas vous dire laquelle. C'est ça, voilà, il y a trop de bonbons, une indigestion. Non, je ne peux pas vous dire laquelle, mais ce sont dans des conditions extrêmement mystérieuses. Vous avez compris le mot mystère.
C'est un thriller. Ouais,
c'est une forme de thriller très... Oui, tout à fait. Et donc, les 3 accompagnatrices sont formelles. Elle est rentrée chez elle. Or, les 8 autres, elles sont toutes aussi formelles et pensent qu'il s'agit soit d'un enlèvement, soit d'un assassinat. Et avec leurs maigres moyens, elles vont toutes les 8 partir à sa recherche.
Et ce qui fait très peur aussi, c'est le nombre de post-it sur votre exemplaire. Il y en a plus que de nombre de pages. Ça s'appelle donc Strega, Johan Lykkeholm, à la Peuplade. Merci beaucoup Clémence Pouletti. Sébastien Bordonnat, oui. des images.
Oui, deux BD spéciales jeunesse. Hein. Je profite sans vergogne de l'absence d'Héloïse Gouin qu'on embrasse. La première, c'est Mundus, édité chez 404 Comics. Alors Mundus, je ne sais pas, M-U-N-D-U-S. Graphiquement, tout est au service de l'action qui ne s'arrête jamais. De jeunes adultes, Anaïs, Ben et Matt vont en soirée. Matt a présumé de sa capacité à tenir l'alcool. Hein. Il arrive ce qui doit arriver à la moquette. Et en plus, les plombs de la maison sautent. L'histoire bascule à ce moment précis car une faille spatio-temporelle les transporte tous dans un monde digne de la guerre des étoiles avec des prêtres qui rendent gloire à un archibaron qui n'est pas sans rappeler Jabba le Hutt. Bref, c'est parti pour une super aventure de folie, aussi bien dessinée que scénarisée. Ouais. Et d'ailleurs, belle initiative, Nicolas. À la fin de la BD, il y a le scénario écrit tout seul en texte et les premiers dessins faits à partir du scénario, ce qui permet de vraiment apprécier l'importance du travail duo scénariste-dessinateur. C'est le cas ici, ça s'appelle Mundus de Laurent Kessy et Auriol Roy chez 404 Comics. La deuxième BD, elle est parfaite pour les petits grands. C'est une BD, mais à chaque case, on dirait de l'aquarelle. Oh, peut-être parce que ça en est d'ailleurs. Marie Jaffredo signe le scénario, les dessins et les couleurs douces et automnales de cet ouvrage qui s'appelle Le printemps de Sakura. Sakura, ça veut dire fleur de cerisier en japonais et c'est aussi le prénom de cette petite fille de 8 ans. Le problème, c'est qu'elle vit avec son père français. Sa maman japonaise est décédée d'un accident de vélo il y a 3 ans. Les vacances approchent. Impossible d'aller à Lyon chez son papy qui va se faire opérer et son père a une mission en Inde. Bref, c'est un peu l'occasion idéale d'aller voir Oba, sa grand-mère au Japon. Ça lui fait un peu peur parce que Sakura, elle maîtrise pas bien le japonais, les enfants du village vont se moquer, en plus il y a un chat, il va me griffer, bref, elle y va à reculons. Vous l'avez compris, au fur et à mesure de la BD, elle va découvrir et adorer cette nouvelle culture, cet autre mode de vie, moins rapide, plus en conscience, prendre le temps de faire des tempura maison, de visiter le temple du village. Voilà, une BD à lire en prenant son temps, ça s'appelle Le printemps de Sakura et elle est dessinée par Marie Jaffredo.
Ça se passe au printemps, mais il y a des couleurs automnales.
Et oui, voilà, c'est tout le paradoxe de cette BD.
Elle est très jolie.
Ouais, c'est très très beau. Vous avez une petite citation ?
J'ai une petite citation, une citation qui vient d'une BD que j'ai relue récemment, un peu par nostalgie. Elle s'appelle, cette BD, Le magasin des suicides. Elle raconte l'histoire d'une famille qui tient un magasin où on trouve tout ce qu'il faut pour se suicider. Il est écrit dans cette BD, vraiment, c'était la plus belle boutique du boulevard Bérégovois. Tout l'humour, effectivement, vous l'avez reconnu de cette BD qui vient d'un roman écrit par le très regretté Jean Tellier, effectivement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre de votre roman ? Anne Burzynski.
Bien sûr, La librairie sur la colline de Alba Donati, paru très bientôt aux éditions Globe, que je suis en train de montrer à mes camarades.
Le livre commander, est magnifique. En plus. Il doit déjà être dans les cartons, ça rentre avec le libraire.
À offrir ou à s'offrir, il est magnifique en plus.
Clémence Pouletti.
Strega de Johan Lique Holm à la Peuplade.
C'est parfait, merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle le titre du roman de notre invité, Alain Mabankou. Le commerce des allongés, c'est au seuil. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpeuch pour la programmation musicale et à la réalisation, Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.